RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Cette édition d'Afrique Presse est diffusée sur RFI uniquement car nos partenaires de TV5 Monde sont en congé en cette période de fin d'année. Avec nous, dans ce studio de RFI, Alassane Samba Diop, journaliste et directeur de la radio privée sénégalaise RFM, radio du célèbre chanteur et artiste sénégalais Youssou N'Dour. Avec nous, Louis Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Et puis enfin, Albert Bourgi, juriste et spécialiste de géopolitique africaine. Et c'est pour passer en revue quelques-uns des grands sujets de l'actualité africaine en 2016, alors que cette année 2016 arrive donc à son terme. Le premier sujet marquant, c'est cette annonce par trois pays africains de leur retrait de la Cour pénale internationale. Ces pays, je m'adresse à vous Albert Bourgi en tant que juriste déjà, le Burundi le 13 octobre, l'Afrique du Sud le 21 octobre et puis la Gambie le 24 octobre. Les dirigeants de ces trois pays, à savoir Pierre Nkurunziza, Jacob Zuma et Yaya Jamé, ont accusé en gros la juridiction internationale de ne poursuivre et juger que des Africains depuis son entrée en activité.
Oui, oui, c'est la grosse question, hein. La fameuse Cour pénale internationale qui a été souhaitée par les Africains, il faut jamais l'oublier. Ce sont les organisations non gouvernementales, les ONG africaines qui ont été véritablement les porteurs. Des ONG porteuses véritablement de ce projet qui mettait fin ou qui mettrait fin en tout cas à l'impunité dont jouissaient un certain nombre de dirigeants autoritaires, de dictateurs, tout ce qu'on veut sur le continent africain. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ma foi,
le Sénégal a été le premier pays
signataire. Sénégal a été le premier pays non seulement à ratifier même le texte de Rome, le traité. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout ça se retourne finalement contre l'Afrique et qu'au fond, tous ceux qui sont passibles de la Cour pénale internationale ne peuvent être que des Africains. Moi, franchement, j'aime pas trop ce tropisme de dire un tel, c'est uniquement les Africains et pas les Blancs. Mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Tout y est, à savoir que cette Cour pénale internationale aujourd'hui est devenu un instrument principal des relations internationales et en particulier cette Cour pénale internationale a été versée en quelque sorte dans le bac des grandes puissances, c'est-à-dire les grandes puissances qui paradoxalement pour la plupart d'entre elles ne font pas partie de cette Cour pénale internationale. Les États-Unis et l'Amérique bien évidemment n'ont pas voulu être dedans.
La Russie
vient de retirer sa signature, elle n'était pas partie prenante, la Chine n'y est pas. Ça signifie que vous avez un Conseil de sécurité composé de 5 membres permanents dont 3 sont à l'extérieur et dont 2 l'utilisent cette Cour pénale internationale pour régler des problèmes politique et en particulier lorsqu'il s'agit du périmètre ou tout au moins de ce qu'on appelle aujourd'hui le périmètre français en Afrique.
Et puis il y a eu aussi Louis Kemayou de soulever la question du deux poids deux mesures, notamment sur le dossier ivoirien, c'est-à-dire juger la partie concernant l'ex-président Laurent Gbagbo, en revanche oublier, jamais poursuivre les acteurs du côté du clan du président Alassane Ouattara dans la crise post-électorale ivoirienne.
Ça c'est vrai parce qu'on a eu l'impression que c'était un instrument pour régler des questions à la fois électorales et politiques. Ça, c'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, comme vous le signaliez, mais on pourrait également l'utiliser pour la RDC avec Jean-Pierre Bemba, qui a été emmené à la cour dont on attend toujours le verdict et qui est considéré par ses partisans comme une victime de la Cour pénale internationale. Et de l'autre côté, en multipliant les affaires sur le terrain africain, cette cour vient de se rendre compte qu'elle n'a pas toujours les moyens de faire tous les procès en même temps. C'est-à-dire que là, elle dit qu'elle ne peut pas faire 3 procès en même temps. Et donc, du coup, on va renvoyer la plupart des procès, on va faire traîner des affaires pendant des années et peut-être qu'à la fin, on blanchira les personnes qui ont été arrêtées.
Alors, lors du 27e sommet de l'Union africaine mi-juillet à Kigali, donc au Rwanda, il était question à Alassane Samba Diop de mettre à l'ordre du jour la question du retrait de la CPI, mais le Sénégal qui préside l'Assemblée des États parties communes au statut de Rome, qui a donné donc naissance à cette CPI, eh bien le Sénégal s'y est opposé en estimant, le président Macky Sall a estimé que cette question relevait du retrait, relevait de la souveraineté de chaque État et non de l'Union africaine en tant qu'entité regroupant les pays africains.
Oui, mais d'accord, et le président Macky Sall l'a dit, il a raison sur ce point bien précis, mais ça m'empêche qu'en Afrique, les gens se posent beaucoup de questions sur le fonctionnement de la CPI.
Et lui-même, Macky Sall lui-même est très critique.
Le fonctionnement, il faut le revoir. Pourquoi seulement ce sont des dirigeants africains qui sont traînés devant la CPI? La jeunesse africaine se pose des questions. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est entre les mains de la CPI, les gens se posent des questions par rapport à l'autre camp qui n'a pas été jugé. Et si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous sentez à travers les populations, les réactions, que cette affaire de la crise ivoirienne est loin d'être terminée. Au Bobo, ailleurs, les gens sont là, on parle de croissance économique en Côte d'Ivoire, mais ça n'empêche pas quelque part ce sentiment aujourd'hui d'injustice qui se déroule là-bas. Mmh. Je pense qu'il faudrait revoir le fonctionnement de la CPI, revoir la façon de faire de la CPI, sinon d'autres États africains seront tentés de sortir de la CPI.
Afrique Presse, donc consacrée à ce tour d'horizon des événements 2016 en Afrique. On évoque à présent quelques-unes des nombreuses élections, hein, notamment présidentielles. Alors le cas de figure le plus inédit, Alassane Samba Diop, ça s'est passé en Gambie où Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a d'abord reconnu sa défaite et la victoire donc de son rival, l'opposant Adama Barrow, à l'issue de l'élection présidentielle du 1er décembre. Puis volte-face, il conteste les résultats, l'affaire est entre les mains de la Cour suprême, qui devrait statuer d'ici le 10 janvier, mais on n'a jamais vu ça.
Oui, c'est jamais vu, c'est assez surprenant. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, quand Yahya Jammeh a reconnu sa défaite, fait très attention. C'est quelqu'un qui est un grand manipulateur. Les gens n'avaient pas beaucoup cru à sa défaite. C'était une façon d'endormir les gens pour mieux revenir. Et puis Yahya Jammeh, à la surprise générale, a dit qu'il n'a pas perdu les élections. La CEDEAO est en train de le menacer d'une intervention militaire, mais beaucoup estiment qu'aujourd'hui, peut-être que les menaces qui ont été proférées contre Yahya Jammeh par les ONG internationales ont quelque part fait qu'il est revenu sur sa position de départ, qu'il faudrait voir comment négocier au mieux pour qu'il parte sans être inquiété. Si les gens vont utiliser la force, on risque d'avoir des difficultés énormes, parce que la Gambie et le Sénégal, c'est deux pays très imbriqués. J'ai entendu M. D'Assouza dire que le président de la CEDEAO dire aujourd'hui, le secrétaire général de la CEDEAO dire que la Gambie, qu'il pourrait qu'il y ait une intervention militaire, mais beaucoup sont sceptiques parce qu'il y a jamais quand même ces 22 ans de pouvoir. C'est pas lui seul, c'est tout un système qui est en place. Il faut de faire très très attention.
À ne pas faire de victimes, notamment civiles. Alors Louis Kemayou, on va très vite puisque c'est un tour d'horizon. On ne peut que être bref et peut-être bien sûr très incomplet. Hein. Autre présidentiel contesté, c'est la réélection du Tchadien Idriss Déby. C'est le changement constitutionnel suivi de la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Et puis alors, il y a l'issue du scrutin le plus tendu et marqué par des violences. C'est la présidentielle du 27 août au Gabon, officiellement remportée par le sortant Ali Bongo. Et de l'autre côté, Jean-Ping, hein, son principal rival, qui continue contre vents et marées à se dire élu président donc du Gabon.
On est dans un bras de fer familial, en quelque sorte, puisque en face de nous, on a le PDG actuel, et puis devant l'ancien PDG, des anciens du PDG du Parti démocratique gabonais qui sont en rupture de banc avec le parti et qui sont donc en rupture également avec avec son leader Ali Bongo Ondimba. Mais le drame ici, c'est que ils ont tout préparé peut-être pour la campagne, puisque Jean-Ping a quand même fait 2 ans à labourer le terrain avant l'élection présidentielle, mais ils n'ont pas préparé le plus dur, l'après-proclamation des résultats. Et c'est là que le bât a blessé, puisque devant la commission électorale, il y a eu beaucoup d'amateurisme, devant la Cour constitutionnelle également, on a promis qu'il y aurait 130 bulletins qui prouveraient qu'il y avait eu des fraudes, et puis on n'a pas pu en produire 100. On est tombé dans quelque chose qui est devenu presque pathétique. La communauté internationale est appelée au secours.
Impuissante.
Et elle est impuissante.
Et la messe est dite. Alors Albert Bourget, venons-en, soyons positifs. Il y a eu des élections présidentielles où il n'y a pas eu de remous, c'est le cas du Ghana récemment. Il y a eu le 7 décembre une élection remportée sans remous par le chef de file de l'opposition, Nana Akufo-Addo. En Côte d'Ivoire, Ouattara a été réélu sans remous, il a changé de constitution et même organisé des législatives le 19 décembre, là aussi, sans violence majeure.
Ben écoutez, d'abord parlons du Ghana. Le Ghana, fort heureusement, nous a habitués à des alternances pacifiques, des alternances politiques pacifiques. Celles, bien sûr, d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, de ces derniers jours, mais celles également qui avaient permis, précisément, de désigner quelqu'un qui n'était pas encore attendu par l'opinion publique. Donc, je veux dire que c'est le Ghana est entré dans une espèce de maturité politique qui permet, justement, de faire valoir un petit peu tous les équilibres que sollicite ou qu'impose nécessairement une bonne démocratie.
Et la Côte d'Ivoire,
écoutez, franchement, je veux bien croire que cette Côte d'Ivoire a élu Alassane Ouattara. D'abord, il faut savoir comment il est arrivé au pouvoir, Alassane Ouattara. Pardonnez-moi, je dirais que le scénario de l'élection de Ouattara, franchement, quand on revient en 2010, ce scénario est écrit d'avance. Il fallait installer bien évidemment Ouattara. Une fois installé, il pactise avec Colombédier, et puis ensuite, il s'arrange pour organiser ses propres élections. Franchement, je veux pas du tout entrer dans une espèce de discussion polémique ou tout ce qu'on veut, mais véritablement, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, et Alassane Samba Diop l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les apparences sont trompeuses. La société ivoirienne est aujourd'hui déchirée. La participation officielle aux élections législatives est de 37%. Je ne vous dis pas que la participation, vous en souvenez sans doute, vos confrères qui étaient présents en Côte d'Ivoire au moment de l'élection, justement la réélection de Ouattara, on dit qu'il y avait personne dans les bureaux de vote, personne n'était là, et on a fabriqué des taux. Véritablement fabriqué des taux. Je crois que Ouattara dit peut-être qu'il veut partir, mais je pense qu'il veut peut-être prendre plutôt la tangente avant que les choses ne se traduisent par des, semble-t-il, des événements qui peuvent être extrêmement tragiques d'ailleurs et dramatiques pour la Côte d'Ivoire, pas pour lui. Il ira rapidement à Mougin, en France, dans le sud de la France, et se reposer.
Voilà, alors on passe à un événement positif, Louis Kemayou, c'est le dégel des relations entre le chef de l'État guinéen, Guinée-Conakry, Alpha Condé, et son principal rival, c'est Loud Alain Diallo, alors qu'on était habitué depuis que le président Alpha a été élu, à des manifestations de rue convoquées par ces Loud Alain Diallo qui se terminaient souvent dans des violences.
Heureusement d'ailleurs, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une guerre entre les Peuls et le reste de la Guinée, et que c'était irréconciliable, qu'on ne pouvait rien faire par rapport à cela. Et ça fait du bien par moment de voir deux chefs d'État, enfin deux hommes d'État, se retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire dire que ce qui compte le plus au-delà de toutes les oppositions légitimes que nous pouvons avoir, c'est que le destin du pays nous porte à davantage discuter, à dialoguer, un peu comme au Sénégal, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux hommes politiques sénégalais, mais on ne peut pas leur reprocher le manque de dialogue. Sur ce plan, la Guinée est en train de prendre à peu près le même chemin, et il ne faut que saluer.
À propos du Sénégal, un mot à propos de cette révision constitutionnelle intervenue, qui a donné de nouveaux droits. Ces réformes ont donné de nouveaux droits au Sénégal, le droit à un environnement sain, etc., etc. Il y a d'autres institutions qui ont été créées pour ouvrir le débat démocratique, donc par le président Macky Sall. Mais on lui a contesté ce point selon lequel il devra terminer son premier mandat de 7 ans parce que, eh bien, les institutions judiciaires suprêmes du pays l'obligent à le faire. Mauvais procès. Est-ce qu'il pouvait faire autrement, Alassane Samba Diop?
Je pense qu'il a pris langue avec le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il ne peut pas revenir sur son mandat de 7 ans, que c'est le prochain mandat que cette loi pourrait s'appliquer. Au Sénégal, vous savez, les gens sont traumatisés par le revirement de Abdoulaye Wade, le Wahwahet. Et l'opposition a profité en ce moment pour faire le bilan de Macky Sall en disant qu'il n'a pas respecté sa parole. C'est moins sur le référendum en tant que tel que sur cette question bien précise que l'opposition a voulu mettre en avant pour montrer que le président Macky Sall n'a pas respecté sa parole par rapport à son mandat. Mais le référendum, quand même, lance de bonnes avancées sur le plan démocratique avec le droit à l'environnement. D'autres questions importantes sont dans le référendum. Mais quand beaucoup de Sénégalais sont partis en campagne, l'opposition ne s'est pas focalisée sur le contenu du référendum. Elle a plutôt parlé de cet aspect bien précis qui a fait qu'ils lui ont contesté quelque part ce référendum.
En tout cas, lui, il dit qu'il reste légaliste. Au chapitre électoral, rappeler le recul de l'ANC en Afrique du Sud lors des élections municipales du 3 août dernier. Le parti de Nelson Mandela a perdu les principales villes du pays sous cette ère que vous savez très controversée de l'actuel président Jacob Zuma. Sur RFI Afrique Presse, tour d'horizon des événements africains de 2016, la suite avec malheureusement ces conflits armés. Au Nigeria, le président Mahamadou Bouhari se félicite à la Sainte Samba Diop du recul de Boko Haram, même si le groupe djihadiste nigérian qui opère surtout dans le nord-est du Nigeria, au Cameroun et dans les pays voisins, a multiplié les attaques justement dans les zones du lac Tchad, ainsi que les attentats suscitent. Cela dit, il y a quand même incontestablement du recul dans les attaques, dans la capacité de nuisance du groupe.
Absolument, il y a un recul par rapport aux attaques dans la capacité de nuisance de Boko Haram. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les armées africaines arrivent à mutualiser leurs forces. C'est extrêmement important. Il y avait un document que Mahmoud Lamine Loum avait travaillé sur l'UMA en 2020. Il disait qu'il faudrait une armée fédérale en Afrique pour qu'on mutualise les forces, qu'on puisse, les gens puissent se battre pour éviter ce genre de situation-là. Je pense que le Tchad et d'autres pays qui ont participé, le Cameroun et d'autres pays qui ont participé à cette force font qu'aujourd'hui que Boko Haram a vu ses capacités de nuisance réduites, mais il reste encore très très très
du
travail à faire. Je pense que c'est important que les gens travaillent sur ce volet de regroupement de l'armée africaine, de mutualisation des forces pour qu'on puisse combattre l'ennemi numéro un en Afrique aujourd'hui.
Louis, alors le Mali, d'abord félicitons-nous de la déroute du groupe État islamique en Libye, délogé de la ville de Sirte courant décembre, mais la situation du pays de Muammar Kadhafi reste chaotique, de l'ex numéro 1 libyen assassiné. Et puis alors, du côté du Mali, les groupes djihadistes restent contenus par les forces françaises et les casques bleus de l'ONU. Malgré tout, l'insécurité règne dans un certain nombre de secteurs, de zones du pays, et puis un pan du territoire, notamment la zone de Kidal, reste une sorte de no man's land par rapport au territoire national, et ça pose énormément de problèmes. On l'a vérifié notamment lors des dernières élections municipales.
Oui, parce que ça faisait partie des négociations que les rebelles avaient eues avec les autorités françaises et qui ont permis que, notamment, on ne fasse pas rentrer les autorités maliennes dans la zone de Kidal. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Espérons qu'avec le temps, on arrivera au fil des négociations et surtout avec la force de travail des autorités maliennes, qu'on arrive à casser cette barrière, parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays, on interdise aux autorités d'aller sur une partie de leur territoire qui n'est pas indépendante et qui n'est pas reconnue comme indépendante.
Deux mots sur le Mali, Albert
Bourget.
Oui,
c'est un vrai problème que vient de soulever notre ami. C'est que franchement, le drapeau malien devrait flotter à Kidal. Je comprends pas que l'armée française présente, qui a fait un travail remarquable, oublier que l'opération Serval a été profitable pour l'intégrité, la souveraineté du Mali, incontestablement.
Et Barkhane maintenant contient les djihadistes.
Mais oui, Barkhane contient les djihadistes, la poursuite des djihadistes, mais il faudrait quand même que cette souveraineté, cette intégrité territoriale s'étend à tout le territoire national. Or, Kidal est une des principales villes quand même du pays. Elle est un petit peu symbolique de tout le nord du Mali. Là, il y a vraiment un problème, et j'ai envie de dire que il appartient en tout cas précisément à la France de mettre fin à ce quiproquo. Qui est inacceptable.
Voilà, un dernier sujet, Albert Bourgie, un constat plutôt inquiétant, c'est l'incapacité de l'Union africaine, de l'ONU ou des organisations sous-régionales à mettre fin à un conflit civil tel que le conflit du Soudan du Sud. Absolument. Ou à cette crise qui fait énormément de morts, la crise présidentielle du troisième mandat au Burundi qui perdure. Il y a des gens qui quittent le pays par milliers, pareil pour le Soudan du Sud. On retrouve presque le scénario de la Syrie quelque part, c'est-à-dire la communauté internationale de plus en plus sans moyen d'arrêter des boucheries et des violations des droits de l'homme énormes.
Je crois qu'il appartient justement à l'Union africaine, qui a quand même une véritable légitimité sur le plan international en tant que tel, au moins sur le papier, une légitimité. Cette légitimité doit lui permettre précisément d'exiger au fond des grandes organisations internationales, notamment de l'Organisation des Nations Unies, de régler positivement ces problèmes.
Mais est-ce que les Nations Unies sont capables aujourd'hui de régler
finalement ces problèmes? Non, d'accord, mais est-ce que l'Union africaine est capable en tant que telle? Je ne crois pas, malheureusement. D'où la jonction finalement des décisions qui peuvent être prises au niveau africain, bien évidemment, au niveau continental africain, et qui puissent justement ces pressions en tant que telles, ou ces décisions, avoir en quelque sorte prise sur ce qu'on appelle la communauté internationale.
Un dernier mot, Louis, très vite.
C'est-à-dire qu'il y a un principe de subsidiarité qui a été décidé au niveau de l'Union africaine pour faire que ce soit les organisations sous-régionales qui soient en premier impliquées dans les conflits. Mais malheureusement, on a une question de moyens, parce que après tout, ça se résume à des questions de moyens d'intervention, et l'Afrique et les organisations sous-régionales n'ont pas ces moyens actuellement.
Non, pardonnez-moi, juste un petit mot sur ce principe de subsidiarité. Effectivement, il existe en tant que tel, mais il n'est pas applicable. Alors, ma foi, on peut passer où? C'est ça. On est déjà passé outre dans d'autres conflits.
Voilà.
Pourquoi pas ?
C'est la fin de cette émission sur les événements africains marquants, quelques-uns des événements marquants 2016. Tour d'horizon non exhaustif, bien entendu. Merci Albert Bourgie, Louis Kemayou et Alassane Samba Diop. Bon retour au Sénégal, Alassane Samba Diop. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site internet de RFI, et nous retrouverons dès la semaine prochaine nos partenaires de TV5 Monde pour la première édition d'Afrique Presse en 2017. D'ici là, très bonne fin d'année à tous. Julien Lingue a réalisé cette émission.